On poursuit nos entrevues avec nos champions olympiens.
Oui. Hein,
quand même, parce que la semaine dernière, on a parlé avec Michael, entre autres, et les sœurs.
Les sœurs sur la pointe.
Exact. Et on va parler de tennis tantôt, parce que toute une performance, encore une fois. Mais Philippe Marquis était avec nous, skieur acrobatique qui a annoncé sa retraite.
Oui, et ça s'est fait hier à la station de ski Stoneham, en banlieue de Québec, entouré d'amis, membres de sa famille. On va aller le retrouver aujourd'hui. Philippe Marquis, bonjour.
Bon matin, les gars.
Philippe Marquis, tu tenais à faire ça à ta façon, à rendre ça de façon à prendre ta retraite, à l'annoncer là d'une manière plus officielle, disons, et c'est la raison pour laquelle tu as fait ça à Stoneham hier, entouré d'amis et de parents.
Oui, puis c'était pas un secret de polichinelle, ma retraite s'en venait. Je l'avais dit déjà depuis pratiquement un an. Je suis revenu, j'ai fait une grosse saison, des bons résultats au-delà de mes attentes, ce qui était vraiment fantastique, puis d'avoir la chance de skier aussi avec ma gang, avec Freestyle Canada une dernière fois. Mais c'était important de clôturer tout ça et de terminer ça à ma manière à la station touristique Stoneham, parce que c'est un peu là que mon rêve a commencé quand j'étais jeune. C'est là que j'ai skié toute ma jeunesse. Puis je voulais être avec mes amis, mes proches. Je suis quelqu'un qui est très impliqué puis qui est très près des gens en général. Puis c'était important pour moi de pas simplement envoyer un petit message sur Facebook, mais vraiment de prendre le temps de voir tout le monde face à face puis les remercier en personne.
Surtout qu'après toutes les malchances que tu as eues au cours de ta carrière, tu n'aurais pas aimé être obligé de prendre ta retraite, poussé à la retraite par une blessure, là.
Non, mais j'ai choisi un peu mon timing aussi. Je pense qu'après les Olympiques de Pyeongchang, après ma blessure au genou, j'ai pensé à tout ce processus-là. J'ai pensé un peu à la retraite, évidemment, quand j'ai subi mon intervention chirurgicale l'année passée. Puis j'ai décidé de me battre une dernière saison, de revenir, puis de travailler très, très fort pour revenir à un haut niveau. J'ai été hâte de le faire, donc c'est cool parce que ça termine vraiment sur mes termes cette année. C'est moi qui ai décidé quand je voulais prendre ma retraite, quand j'étais prêt aussi à faire la transition. Donc, je pense que tu crées tes chances un petit peu aussi. Puis oui, les malchances, les blessures ont fait partie de ma carrière, mais je pense que maintenant que j'ai un peu de recul puis j'ai plus de maturité, je vois ça beaucoup d'un point de vue positif. Je pense que ces expériences-là à travers les blessures m'ont enrichi beaucoup, ont été des apprentissages extraordinaires. Fait que maintenant, j'amène ça dans mon bagage pour ce qui s'en vient par la suite, mon prochain chapitre. Puis franchement, comme tu sais, on peut parler de malchance, mais moi, je suis chanceux d'avoir eu une carrière extraordinaire de skier jusqu'à 29 ans, puis de faire près de 100 Coupes du monde, puis 13 podiums. Donc, j'ai vraiment eu une belle carrière puis des expériences extraordinaires.
Et là, vous prenez votre retraite dans quelle forme physique? Comment vous allez physiquement?
Je cacherai pas que je suis un peu magané. ça vient avec les années de ski de bosse, j'imagine. Puis j'ai eu une petite chute au Kazakhstan il y a deux semaines qui m'a mis un peu le dos en compote. Mais contrairement à toutes mes blessures que j'ai eues auparavant, celle-ci, j'ai pas un chronomètre qui me dit que je dois faire une compétition dans X mois, X semaines. Donc je vais prendre le temps qu'il faut pour continuer à m'entraîner puis rester en bonne condition physique pour l'avenir, parce que c'est évidemment quand on est un sportif de haut niveau, on reste toujours un sportif pour le reste de sa vie.
Michael Kingsbury a eu de très bons mots à ton égard en disant que tu as été son grand frère sur le circuit de la Coupe du monde, mais au cours des dernières années, quand on parlait de ski acrobatique, inévitablement, c'était le nom de Michael Kingsbury qui faisait la manchette. Comment c'était d'être, je vais le dire, un peu dans l'ombre de Michael Kingsbury qui prenait toute la place, là, finalement?
Oui, je pense qu'à l'international, tout le monde était dans l'ombre de Michael depuis plusieurs années. C'est tout à son avantage. Il a été un athlète extraordinaire. C'est un athlète extraordinaire. Il performe extrêmement bien. Il a une force de caractère mental que j'ai rarement vu chez un athlète. Pour moi, d'avoir eu peut-être la chance de le mentorer, puis d'être peut-être son grand frère, que pour utiliser ses propres mots, ça a été vraiment une chance unique, puis ça m'a permis de me pousser beaucoup à travers ça aussi, puis d'avoir eu la chance de partager. Moi, ça fait 12 ans que j'étais sur l'équipe nationale, peut-être 10 ans avec Michael. On n'était plus juste des coéquipiers vers la fin, mais on a développé une relation qui était comme un petit frère, grand frère. On est des super chums maintenant, puis je vais toujours être là, même si je serais peut-être plus coach en bras avec lui, puis je suivrai peut-être pas à tous les événements maintenant, mais je vais toujours être là pour lui à chaque fois qu'il a besoin. Puis comme je dis, on a tellement une forte relation maintenant qu'on a été capable de se pousser beaucoup dans les dernières années. Puis juste récemment, même, on a terminé 1 et 2 au Japon à la Coupe du monde il y a deux semaines. De vivre des moments comme ça, ça ça n'a pas de prix. Puis je vais toujours remercier de la présence de Mick et faire des éloges aussi parce qu'on a eu une carrière ensemble extraordinaire.
Ben, bravo Philippe Marquis, puis merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes.
Merci les gars, passez une bonne journée.
Bonne journée.
Alors,
Philippe Marquis, oui. Qui était le capitaine de l'équipe nationale. Là, c'est Michael Kingsbury qui va devenir capitaine de l'équipe canadienne de ski acrobatique.
Deux choses dont je voudrais que tu me parles. D'abord, oui, le tennis que tu as regardé, le match.
Oui.
C'est rare que tu regardes un match au complet. Là.
Oui. Mais là, ben, j'en regarde, oui, ça m'arrive, mais c'était la première fois que je regardais Félix Auger-Aliassime du début à la fin. Samedi après-midi, et je vais te dire, là, j'ai été impressionné par le jeune homme. Il l'a emporté en deux manches rapides, 6-4, 6-2, contre le grec Stefanos Tsitsipas, qui est le 10e joueur au monde. Aliassime est 58e actuellement, mais son rang va certainement s'améliorer avec les prochains classements. D'ailleurs, j'écoutais des commentateurs américains qui décrivaient le match. On dit qu'il va probablement briser la barre des 50 meilleurs au monde bientôt et va continuer. Écoute, ils étaient emballés par le jeu de Félix Auger-Aliassime et moi aussi. Vraiment un calme sur le court. Il est entré dans la tête de son rival à un point tel qu'on voyait Tsitsipas prendre de très mauvaises décisions. Il a, entre autres, challengé trois décisions des officiels. Il les a perdues les trois. Et c'est un petit peu ironique parce que là, il n'avait plus de challenge. Il ne pouvait plus contester les décisions des officiels. Mmh. Et Félix Auger-Aliassime, ses deux derniers services étaient à l'extérieur. Mais l'arbitre les a manqués et lui, il ne pouvait plus contester parce qu'il avait perdu ses... Mais tu voyais là que Tsitsipas n'avait aucune réponse au jeu de Félix Auger-Aliassime. Puis moi, je le regardais, là, puis je te disais ça tantôt. Lui, là, il doit juste espérer qu'il mouille. Là. C'est, il est rendu là, là parce qu'il avait... Il était incapable de suivre le rythme que Félix Auger-Aliassime imposait.
En terminant, je veux que tu me parles de la Ligue de hockey nord-américaine où, encore une fois, certains événements sont venus perturber côté sportif du match.
Oui, ça s'est produit vendredi dernier à Sorel-Tracy et un match entre les Marquis de Jonquière. Ça, c'est l'équipe de Jonathan Diaby, là, dont on a beaucoup parlé suite des incidents survenus à Saint-Jérôme. Alors, après le match entre Sorel-Tracy et Jonquière, il y a des spectateurs qui ont commencé à insulter les joueurs de Jonquière. On leur a fait des doigts d'honneur et les joueurs ont répliqué. Il y a un échange verbal là, entre les joueurs sur la glace et les spectateurs dans les gradins. Là, à un moment donné, ça a dégénéré. Il y a un spectateur qui a lancé une bière en direction des joueurs. Un des joueurs a voulu répliquer avec un coup de bâton. Heureusement, n'a pas réussi à atteindre le spectateur. Et là, la sécurité est intervenue et on a envoyé les joueurs au vestiaire.
Mais attends, ça, on a quelques commentaires suite à ça.
C'est vraiment excitant. La foule est debout. Il fait du sang. Ça, c'est du hockey.
Ben écoute, là, c'est des estrades, là, pour suite de ça que ça a dégénéré. Il y a un spectateur qui a voulu s'en prendre à celui qui avait lancé une bière. Il y a un troisième spectateur qui est arrivé. Ça en est pris au deuxième.
C'est incroyable. Regardez ça. Oh non, j'oublie. Nous sommes à la radio.
Et à la fin de la vidéo, là, il y a une personne âgée qui menace un adolescent de lui casser la gueule.
Bon, ben,
le journal de Montréal fait un compte rendu ce matin. Mais il faut savoir, là, entre les joueurs sur la patinoire et pendant le match, il n'y a rien arrivé.
Non, non, ce sont leurs partisans qui
c'est
ont perdu
ça, c'est
le contrôle.
C'est dans les gradins là, que la foire a pogné. Mais, tu sais, quand on parle de la Ligue nord-américaine puis tous les efforts qu'ils font, le problème, c'est que ça reste collé, ce genre d'incident-là, puis ça se répète, puis ça fait partie d'un peu de la culture de ce circuit-là.
Merci, monsieur. On va faire la pause, si vous permettez. On va aller voir comment ça va sur l'autoroute des Laurentides.